Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui navigue entre les pages de la littérature. Le principe est simple, vous allez entendre deux chroniques de livres, puis des extraits lus par nous, des 10 ouvrages. Aujourd'hui, en guise d'introduction, nous vous emmenons au Japon à bord d'un bateau-usine. C'est d'ailleurs le titre du roman de Takeshi Kobayashi, Le bateau-usine, publié pour la première fois en 1929 et édité par Alia. Puis ce sera une plongée dans la spirale des petits boulots et de la précarité, avec le recueil de nouvelles précaires de Mustapha Belhossine, sorti cette année chez Agon dans la collection 100 000 signes. Nous vous souhaitons une très bonne écoute et de très bonnes lectures.
Le Hakumaru, bateau-usine japonais, quitte l'île de Hokkaido pour 4 mois de pêche au crabe. À bord, ils sont 400. L'équipe des pêcheurs et les ouvriers qui mettent en conserve le crabe. Ce bateau-usine est un rescapé de la guerre russo-japonaise, sans doute un bateau-hôpital ou un convoyeur de troupes. En vérité, plus une épave, sur lequel une couche de peinture redonne un air de jeunesse. La vie à bord est exécrable. Le dortoir, seul refuge des ouvriers, est appelé le merdier. Les cadences sont infernales. L'ambiance est délétère à cause de l'intendant, Asakusa, un sadique, motivant les hommes au nom de la grandeur de l'Empire Nippon, mais surtout à coups d'humiliation, de menaces et de gourdins. Les ouvriers sont des hommes sans emploi. Des paysans, des étudiants, embobinés par des recruteurs, endettés et n'ayant d'autre choix que de tout accepter. Le bateau-usine paraît au Japon en 1929 et s'inscrit dans ce qu'on appelle la littérature prolétarienne. Alors en pleine effervescence, une littérature qui cherche à éduquer, à conscientiser la classe ouvrière. La fin des années 20 est l'âge d'or de ce mouvement, avant que l'État japonais, qui se militarise et se totalitarise de plus en plus, censure et décapite les groupes intellectuels et artistiques de gauche, au sens figuré et au sens propre. Takeshi Kobayashi, l'auteur du livre, qui vivait depuis peu dans la clandestinité, mourra sous les coups de la police dans un commissariat le 20 février 1933. Pour écrire le bateau-usine, Kobayashi s'est inspiré de faits véridiques. Il a enquêté et rencontré des marins et des ouvriers. Kobayashi décrit avec justesse et précision les conditions de vie, de survie devrais-je dire plutôt. Les tensions, les quelques moments de répit, la mort d'un ouvrier et la lutte et la lente prise de conscience du sort subi. Parmi les ouvriers, quelques figures émergent. Le bègue, l'étudiant, la ramène pas. De l'autre côté, c'est l'intendant, Asakusa. Quasi le seul personnage qui soit nommé, comme si l'ennemi était bien identifié. Asakusa n'est lui-même qu'un larbin du capitalisme, mais qui sur ce bateau se croit tout puissant, rappelant sans cesse que l'entreprise possède le bateau et les hommes, et donc se place au-dessus des lois maritimes. La force de Kobayashi est de ne pas avoir personnalisé la lutte. C'est tous ensemble que les ouvriers feront la grève et porteront leurs revendications. Collectivement, tous ensemble, le message est très clair. Le bateau-usine de Takeshi Kobayashi est publié aux éditions Alia. Une fois le travail terminé, les matelots retournaient tous les uns après les autres dans le merdier. Leurs membres pendaient raides et gelés, pareils à de gros radis blancs. Chacun retournait vers sa couche comme un ver à soie à son casier et se réfugiait dans le silence. Affalé sur le flanc, il se tenait au montant en fer. Le bateau se secouait violemment comme un cheval qui se débat pour se débarrasser d'un temps accroché à son dos. Les pêcheurs tournaient leurs regards vagues vers le plafond blanc couvert d'une couche jaunâtre ou vers les hublots bleu-noir presque entièrement sous l'eau. Certains tombaient dans un état quasi comateux, immobiles, la bouche entrouverte. Tous avaient la tête vide. Une angoisse indicible leur imposait un pénible silence. Un gars allongé sur le dos buvait du whisky au goulot. Dans la lumière orange et crasseuse de la lampe électrique, les angles de la bouteille renvoyaient des éclairs. La bouteille vide, lancée à toute allure vers le corridor, traversa le dortoir en zigzagant, rebondissant sur les obstacles. Tous les regards suivirent sa trajectoire. Un gars dans un coin à l'écart cria des injures. Entrecoupé par la tempête, sa voix n'était qu'un babil incompréhensible. Un autre essuyait le hublot avec son coude. « On s'éloigne du Japon !» Le poêle crachotait de la fumée sans parvenir à produire de chaleur. Les êtres humains confinés dans cet endroit, grelottant de tous leurs membres, avaient l'impression d'avoir été confondus avec des saumons et jetés par erreur dans les chambres réfrigérées. Le roulis bondissait par-dessus les coutilles protégées par une bâche. À chaque vague, la paroi métallique contre laquelle dormaient les pêcheurs, transformée en caisse de tambour, résonnait d'un bruit prodigieux. Dans leur sommeil, ils avaient l'impression qu'un solide gaillard venait de leur donner un violent coup d'épaule. Le navire était devenu une grosse baleine, se tordant de douleur entre les vagues en furie. Le marmiton passa la tête par l'entrebâillement de la porte et mit ses mains en porte-voix. « À la gamelle !» Puis il ajouta « Pour cause de tempête, pas de bouillon !»« Hein ? Qu'est-ce qu'il dit ?»« Et puis vous aurez des poissons salés et avariés !» La tête du marmiton disparut. Les hommes se levèrent tous avec précipitation. Manger était une obsession, comme chez les prisonniers. Ils se jetèrent sur la nourriture. Extrait du bateau-usine de Takiji Kobayashi. Exténués par les cadences infernales, les hommes avaient de plus en plus de mal à se lever le matin. Ce jour-là, l'intendant parcourut le dortoir en tapant de toutes ses forces sur un bidon d'essence vide, tout près des oreilles des dormeurs, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux et se lèvent. Un homme qui souffrait du beriberi leva un peu la tête et dit quelque chose. Mais l'intendant fit semblant de ne pas le voir et continua à taper sur son bidon. L'homme, dont la voix était couverte par le tintamarre, ouvrait et fermait la bouche comme un poisson rouge qui gobait de l'air à la surface de l'eau dans un aquarium. Après avoir tapé pendant un bon moment, l'intendant se mit à tonitruer. « Qu'est-ce qui vous arrive ? Je vais vous faire lever de gré ou de force, moi. N'oubliez pas que le travail, c'est la patrie. C'est comme la guerre. Soyez prêts à donner votre vie. Au travail, bande d'imbéciles !» Il arracha aux malades leur couverture et les força à sortir sur le pont. Le pêcheur, atteint de beriberi, se prenait le pied dans les marches. Il parvint tant bien que mal à monter l'escalier en s'agrippant à la rampe, le corps penché en avant, soulevant sa jambe avec l'autre main. À chaque marche, son cœur faisait un bond, frappant des coups sinistres dans sa poitrine. L'intendant et le contremaître s'acharnaient sur les malades avec une perversité de marâtre. Si un malade travaillait à la mise en conserve, il l'envoyait brusquement sur le pont pour le décortiquage. Puis, immédiatement après, il l'envoyait encore à l'étiquetage. Le malade, obligé de rester debout en faisant attention à ne pas glisser dans l'usine froide et sombre, perdait toute sensibilité dans le bas de la jambe. Il avait l'impression d'avoir une prothèse à la place, ou que l'articulation du genou s'était détachée et qu'il allait tomber sur son séant. Dans l'usine, un étudiant se tapota le front de son revers de main, dégoulinant de jus de crabe. Un instant plus tard, il s'écroula en arrière, entraînant dans sa chute la pile de boîtes de conserve vides qui se trouvait à côté de lui. Extrait du bateau-usine de Takiji Kobayashi. Le bègue et l'un des étudiants prirent l'échelle qui menait à la salle des machines. À cause de leur précipitation et du manque d'habitude, leurs pieds manquèrent plusieurs fois les échelons. Ils se retrouvaient suspendus à l'échelle par les mains, dans une situation bien périlleuse. À l'intérieur, l'atmosphère chauffée par les chaudières était suffocante et l'obscurité presque totale. Ils eurent aussitôt le corps couvert de sueur. Une passerelle les fit passer au-dessus des chaudières, puis ils tombèrent sur une nouvelle échelle. Des clameurs venues du bas étaient répétées par l'écho. Ils avaient l'impression désagréable d'être sur le point de s'engager dans un puits menant vers un souterrain infernal, à des centaines de pieds sous terre. Quel métier terrifiant ici aussi. T'as raison, et quand tu penses que par-dessus le marché, l'autre les envoie aider au décortiquage des crabes sur le pont, c'est pas humain. Alors pas de problème, ils vont marcher avec nous. Pas de problème. Ils descendirent l'échelle le long du ventre de la chaudière. Pas possible cette chaleur. Comment on peut supporter ça? Il y a de quoi fumer un homme. Tu parles, et dire qu'on est à l'arrêt. Qu'est-ce que ça doit être quand ils mettent la vapeur? T'as raison. Dans l'océan Indien, les gars font des roulements en se relayant toutes les 30 minutes. Je peux te dire que tu les retrouves tout haletant. On m'a raconté qu'une fois, un ingénieur principal a laissé échapper un mot de trop. Eh bien, ils en ont fait de la bouillie avec leur pelle. Et après, ils l'ont grillé dans le four. On les comprend quand on voit ça. Bah ça. Des volutes de cendres en suspension indiquaient que le foyer venait d'être vidé des résidus de charbon et lavé à grande eau. Assis par terre, à moitié nus, les machinistes bavardaient en fumant. Dans l'obscurité, on aurait pu les prendre pour une bande de gorilles accroupis. La porte du coffre à charbon restait bâillante, laissait entrevoir les froides ténèbres tapis à l'intérieur. « Ohé !» criait le bègue. « C'est qui ?» dit-il en regardant vers le haut. « C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ?» L'écho répéta la question au moins 3 fois. Les deux hommes descendirent. En les apercevant, l'un de ceux d'en bas cria « Vous vous êtes perdus ou quoi ?»« On s'est mis en grève. » « C'est quoi qu'il faut gréer ?»«
Pas gréer, c'est grève. On fait la grève. Enfin !»«
Alors ça y est ? Et si maintenant on rentrait à toute vapeur vers Adokaté ? Pas mal, hein ?»«
C'est dans la poche, » se dit le bègue.
« On a décidé de se mettre tous ensemble pour aller leur mettre les points sur le i à ces salauds. »«
Allez-y, les gars !»«
C'est pas allez-y qu'il faut dire. C'est allons-y. Allons-y, » coupa l'étudiant.
Un machiniste se gratta le crâne, tout blanc de cendres de charbon.
« Ouais, désolé. Allons-y. Allons-y. »
Les autres éclatèrent de rire.
C'était des extraits du roman de Takeshi Kobayashi, Le bateau-usine.
Quelle image mettons derrière un mot ? Précaire. Ça représente quoi ? On sait ce que ça veut dire, bien sûr. Mais quelle image mettons dessus quand on entend ce mot ? Précaire. J'y vois plein de choses autour de la misère, des difficultés de la vie. Surtout quand il est placardé sur la couverture d'un livre, suivi d'un point d'exclamation. Précaire. On entend et on voit tout de suite CDD, stage, RSA, logement, argent, etc. Et puis on lit les mots suivants, en dessous du titre. Nouvelles édifiantes. Des histoires autour de la précarité, peut-être. Oui et non. Ce sont des histoires vraies. Une chronique d'un chercheur d'emploi qui a écumé les plus prestigieuses ANPE de la banlieue parisienne. Dans son recueil, Mustapha Belhossine parle. Il n'écrit pas, il parle, il raconte. Les petits boulots, les humiliations au travail, les trajets, les silences, les attentes. Tout le quotidien d'un être humain qui cherche du travail. Mais qui est ce Belhossine qui parle de ça, de cette vie de misère ? Encore un journaleux ? Un écrivain qui veut du vrai ? Un universitaire qui veut être au plus près de son sujet. Non. Mustapha est un être humain qui, comme tous les êtres humains, gagne sa croûte en travaillant et qui dépend ce qu'il gagne en cherchant du travail. Alors les humiliations, les silences, les attentes, les ironies du sort, il les connaît bien puisque c'est son quotidien. Il les conserve dans un cahier quand il a le temps d'écrire, quand il n'est pas trop crevé. Avec Belhossine, on n'entre pas dans la précarité. On y plonge, sans brassard, sans bouée, balayeur pour Mickey. Manutentionnaire de meubles, on vit les entretiens d'embauche, des plus conventionnels aux plus absurdes, les démarches insolites, les annonces en pagaille. Et il y a les rêves déçus, les rêves de job peinards, les annonces faites pour nous, qui s'envolent pour des raisons inconnues. C'est ça la précarité, espérer, être déçu, et se satisfaire de ce que l'on trouve, en espérant plus tard. Précaire, Nouvelles édifiantes de Mustapha Belhossine raconte tout ça, une réalité humiliante et absurde, qui rappelle qu'au cœur du système capitaliste, l'homme se brise un peu plus chaque jour. Précaire, Nouvelles édifiantes de Mustapha Belhossine, est édité par Agon dans la collection 100 000 signes. Commencer le boulot dans l'après-midi ne signifiait pas pour autant qu'on avait la matinée pour soi. Bien au contraire, il fallait être debout dès l'aube. Tout d'abord, il fallait rejoindre le lieu de travail, ce qui n'était pas le plus long, du moins à l'aller. Pour le retour, c'était autre chose. En fait, mon emploi du temps réel, en comptant le métro et le RER, c'était 7h du mat à 2h du mat. Puis il fallait prévoir du temps entre la porte d'entrée du personnel et le lieu effectif du travail. Et ça ne se faisait pas en 2 minutes. Il y avait une ville dans la ville. On passe un premier sas, un deuxième sas, pièce d'identité, puis on attend le bus, comme si on était sur une ligne de la RATP, sous un abri, avec les mêmes impondérables que les transports parisiens. Après 3 ou 4 stations, puis des couloirs et des escaliers, on rejoint le costuming pour récupérer au pressing une tenue propre et se changer. C'était le dernier endroit où l'on pouvait encore se raser de près, car il fallait pas avoir le poil dru. Les managers vérifiaient avec une caresse de la main la douceur de notre épiderme, et gare si un poil rebelle piquait au vif sa main délicate. Retour à la case départ. Tout était prévu à cet effet, y compris les distributeurs de l'âme. Mais bien sûr, tout cela était décompté du temps de travail. Alors, sauf si on vient 3 heures en avance, on court. On court pour attraper un premier bus. Et on court pour attraper un autre bus. Pour passer du costuming au lieu de travail. Direction le local à balai. Il faut courir, encore et encore. Et là aussi, il vaut mieux arriver à l'avance. C'est à qui chopera la meilleure balayette. Une grosse bousculade a lieu dans le petit local. Quand tu arrives en retard, tu te tapes la plus usée. Une vraie misère. Jouer des coudes pour avoir une balayette neuve. Courir. Toujours courir. On avait à peine 45 minutes pour manger. Lunch time. Et les managers n'hésitaient pas à venir nous interrompre pour faciliter notre digestion. En cas de retard, il était fréquent de se voir retirer 5 à 20 minutes sur sa vacation. Donc on n'arrêtait pas de courir. On finissait le boulot à 23h. Et il fallait maintenant faire le trajet dans l'autre sens. Le parcours du combattant pour rejoindre le dernier RER à minuit 20, qui nous arrivait fréquemment de louper. On errait alors dans le parking en espérant qu'une personne véhiculée nous rapproche de Paris. Mais quoi qu'il advienne, je n'avais aucune chance de choper le dernier métro. Et je me tapais à Pince, Nation Belleville. J'arrivais à la baraque à 2h du mat, épuisé. Réveil à 7h, rebelote. À l'heure où les gouvernements multiplient les contrôles contre les fraudeurs, ces petites gens qui vivent au-dessus de leurs moyens aux dépens de l'État, à l'heure où l'on s'en prend à des assistés, parfois imbibés d'alcool à cause d'une certaine mélancolie, à l'heure où les chômeurs empêchent une partie de la France d'en bas de prendre l'ascenseur social afin de s'épanouir là-haut, tout là-haut, dans la France qui se lève tôt, dans la France qui valorise le travail, la France qui ne calcule pas le nombre de ses heures supplémentaires, la France de ceux qui scandent « j'aime ma boîte », à l'heure où les chômeurs dorment jusqu'à midi avant de rejoindre leur bistrot préféré. C'est à cette heure que, moi aussi, nanti parmi les nantis, apprenti sociologue mais néanmoins chômeur de mon état, je suis sur la route, direction l'agence ANPE de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où je suis convoqué pour un entretien d'embauche en tant que bagagiste manutentionnaire. L'agence est bien entendu spécialisée dans les métiers de l'aéronautique. Tous les métiers de la branche y sont représentés, du bagagiste jusqu'au pilote, en passant par les stewards. J'ai déjà fait cette route plusieurs fois, tentant désespérément de trouver un emploi. Mais, jusqu'à présent, ma quête était restée vaine. Pourtant, ce 23 juin, au volant de ma voiture sur l'autoroute A1, j'étais content. J'étais heureux. Il faisait un soleil radieux, annonciateur d'un bel été, et j'accueillais la lumière comme un présage de bonheur. J'étais loin de me douter que j'allais vivre le point final de mes illusions. Pourquoi voulais-je absolument travailler à l'aéroport ? Quelle était donc cette lubie ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce lieu représente, pour beaucoup de chercheurs d'emploi, le lieu idéal de l'épanouissement professionnel. Car l'aéroport, c'est bien connu, c'est avant tout les voyages. Les vacances. Les vacances qui commencent sur le lieu de départ. Un emploi à l'aéroport, c'est donc joindre l'utile à l'agréable. Il y a le mythe des réductions sur les billets d'avion. Caracas pour 20 euros, Miami pour 15. En fait, seule une petite partie des travailleurs de certaines compagnies bénéficient des réductions. Mais l'espoir fait vivre. Ensuite, travailler en horaire décalé, ça n'a pas que des inconvénients. Le reste de la journée, on peut vaquer à d'autres activités. Et à ce qu'il paraît, et là c'est l'essentiel, il y a le montant du salaire. Pas de smicard à l'aéroport. Alors qu'on n'est même pas en CDI, on commence par se procurer une CB Visa. Les banquiers sont prêts à tout pour trouver de nouveaux clients à qui proposer leur prêt revolving. Là, on commence à frimer avec l'argent, à faire le riche alors qu'on n'a pas le sou. On se prend une carte à paiement différé, une autorisation de découvert conséquente, et nous voilà, gros jaco qu'on mérite d'être, à jongler avec l'argent virtuel. Mais ça ne dure qu'un temps. Après avoir investi dans 2 ou 3 Levi's 501, des Polo Lacoste, avoir payé des cafés et des glaces à quelques indaves, ça te fait péter une semaine all-inclusive en République Dominicaine et acheter une nouvelle stéréo, on se retrouve vite, très vite, dans la merde. Quand c'est la première fois qu'on explose son autorisation de découvert, mais qu'on a retrouvé un petit emploi un peu stable, le banquier est conciliant. D'autant qu'il propose rapidement son crédit revolving. Alors, vous avez besoin de combien ? On a envie de dire, tout l'or du monde. Mais très vite, il vous fait une proposition qu'il inscrit dans un projet. Il a le montant du découvert, il vous faut certainement du matériel informatique, et puis une avance de trésorerie. Allez, je peux vous proposer 10 000 euros que vous rembourserez en 96 mensualités. Sur le coup, on se rend pas compte que ça fait 8 piges, et surtout que le taux est de 25%. On se sent juste pousser des ailes, 10 000 palos, comme ça, en moins d'une minute. En fait, c'est le premier pas dans la précarité, dans la misère. On a beau voir les reportages à la téloche sur l'endettement, on pense tout de suite à ce qu'on va pouvoir faire avec tout ce pognon. Bien sûr, on jure sur ses têtes que cette fois, on va faire gaffe. On va pas claquer les sétunes n'importe comment. Sauf qu'en moins d'un mois, j'étais parti deux fois en vacances en Espagne. Et pour l'été, deux mois dans les Cyclades. J'ai voulu voir de mes yeux le temple d'Apollon, l'oracle de Delphes. Ça rigolait pas. Et puis j'en avais marre de me taper le bled. Ensuite, l'hiver venu, comme j'étais jamais parti au ski, allez, une semaine à la plagne. Et voilà, on a épuisé son petit capital. Sauf que là, avec le crédit revolving, on est vraiment dans la merde. Maintenant, il faut rembourser le crédit, plus les intérêts. J'avais beau avoir un BEP compta et quelques notions d'économie, j'avais rien vu venir. J'étais tellement bien dans les criques, aux eaux turquoises, et j'avais jamais goûté une aussi bonne moussaka que celle de l'île de Naxos. Les deux tiers de ma paye de surveillant filaient dans le remboursement de mes dettes. C'était mal parti. Mais pour se refaire, le Jaco a toujours des ressources. Aussi, je décidais de changer de banque, histoire d'avoir une paye complète sur un nouveau compte, de jouer sur les autorisations de découvert, et de jongler sur les deux comptes. Puis ce fut la grande mode des prêts à la consommation, et autres réserves de crédit souvent distribuées dans les centres commerciaux, sans aucun critère d'attribution. A l'époque, il suffisait d'une pièce d'identité et d'un RIB pour se retrouver avec une réserve de crédit. Il ne vérifiait que dalle, ni la capacité à rembourser, ni le statut professionnel. Même un chômeur sans indemnité pouvait se faire placer une carte de crédit revolving avec bien entendu un taux de la mort. Les banquiers connaissent bien les jacos. On vient pour acheter une téloche et ils vous proposent le paradis du pognon comme ça en moins de 5. Et là c'est le début de la fin, on s'endette très rapidement, on a honte, on reçoit les premières lettres, les premières injonctions de payer, les premières lettres d'huissier, les coups de fil violents. On rentre dans une spirale infernale, le montant des intérêts et les frais dépassent le montant emprunté. On commence à stresser, à faire des cauchemars. Puis on se retrouve interdit bancaire. Et là, on pénètre dans un autre univers. Les cabinets d'huissiers, la Banque de France, les bureaux d'aide sociale. C'était des extraits de « Précaires, nouvelles édifiantes » de Mustapha Bellocine, paru chez Agon dans la collection 100 000 signes. Tout au long de l'émission, vous avez pu entendre des musiques libres de droit. Les titres sont « Charlize » de « Calm », Trees That Speak de The Sun Through a Telescope, Lonely Satellite par Mystery Mammal, et enfin Talk to Me par Miranda Zanzirat. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette nouvelle émission littéraire. N'hésitez pas à nous écouter chaque semaine sur Radio PFM et retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre site internet microrebelle.fr. Je vous donne quant à moi rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission qui vous donnera, j'espère, envie de lire. Portez-vous bien et à bientôt sur Micro Rebelle.